Terre sacrée. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Le 22 janvier, l'Église catholique fête Saint-Vincent, diacre et martyr. Dans la mémoire populaire, Saint-Vincent est connu pour avoir été martyrisé sur un grill. On ne connaît que l'année de sa mort, l'an 304, à Valence, en Espagne. Mais il était originaire de la province de Huesca, la ville de Saragosse. Nous allons évoquer ce grand saint avec mon invitée de ce jour, Jeanne Tornel. Bonjour Jeanne.
Bonjour Marie-Madeleine.
Vous avez choisi un retable espagnol, celui du maître d'Estopignan, qui se trouve au musée de Barcelone.
Oui.
Il est daté d'environ 1350, Estopignan étant un village de l'Aragon. Alors, chers auditeurs, si vous voulez retrouver son image sur Internet, vous pouvez taper « retable d'Estopignan », c'est-à-dire E-S-T-O-P-I-N-A-N. Et vous trouverez tout de suite ce retable que nous allons commenter. Alors, que veut dire « retable » ? C'est, pour faire vite, un meuble, souvent en bois, peint, de figures encadrées, qui raconte une histoire d'un saint personnage ou d'une scène biblique, et qui était placé à l'arrière d'un autel. Alors, il est fréquent qu'un retable se compose de plusieurs volets, deux pour un diptyque, trois pour un triptyque, voire davantage pour un polyptyque. Voilà, et aujourd'hui, c'est un triptyque. Nous allons commenter. Alors Jeanne, ce retable vous a inspiré. Je dis retable, mais il faut dire retable.
Moi, je dis retable.
Bon, et voilà.
C'est du régionalisme.
J'essaierai de me corriger.
Et alors, je complète. Retable, c'est une contraction des mots rétro, tabula, altaris, en latin, qui veut dire en arrière de la table d'autel.
Bien.
Alors, ce retable que j'ai choisi, effectivement, on l'appelle triptyque en faisant bien la nuance que ce n'est pas un triptyque articulé comme souvent on en voit, ces triptyques qui se referment dans les parties latérales, se refermaient sur la partie centrale. Celui-là était destiné à ne pas être manipulé, c'est parce qu'il n'y a pas de décoration dans le dos. Il est en trois parties. Il mesure 2,55 m de large sur 2 m de haut et 10 cm d'épaisseur. Donc, c'est une représentation sur bois qui est très impressionnante parce qu'il revêt la forme d'une cathédrale, en fait, comme si on la voyait en coupe avec la nef centrale et son toit pointu et les nefs latérales, les bas-côtés, avec leur toit pointu également. Évidemment, Saint-Vincent occupe le panneau central. Ces panneaux sont entièrement recouverts de feuilles d'or.
Oui, les fonds d'or.
Voilà, les fonds d'or. Et la peinture qui est utilisée après pour représenter à la fois Saint-Vincent au centre et les scènes de la vie de son martyr sur la droite et sur la gauche, sont en peinture à tempéra. Au centre, sur le panneau central, vous avez une représentation de Saint-Vincent en tant que martyr. Il est déjà au ciel, il a son auréole, il a ses attributs habituels, bien entendu, la palme du martyr, mais il porte aussi le livre saint, l'évangéliaire, dans ses mains. Il est vêtu d'une dalmatique somptueuse, très riche, qui était sans doute brodée d'or, avec de magnifiques motifs sur un fond bleu marine. La dalmatique, c'est le vêtement des diacres, c'est-à-dire que sur l'aube, il porte un vêtement avec les pans droits et non pas les pans arrondis, comme sont les vêtements que portent les prêtres ou les évêques. Ce vêtement, oui, est riche. Chaque pan est vraiment brodé d'une large broderie dorée. Les manches également, le tour du col. Saint-Vincent est représenté tout à fait dans les habitudes de l'époque avec un visage assez impassible, avec un grand nez droit.
De face, oui.
De face. Ouais. On voit qu'il est plutôt blond, qu'il a les cheveux un peu clairs, mais son attitude est grave, sans être désespérée. Son attitude est grave, sérieuse. Sa bouche est pincée, ses yeux sont mi-clos, son teint est habituel, il n'est pas blême. On ne le représente pas mort, on le représente oui. En tant que vraiment ressuscité au ciel, parmi les élus. Et à ses pieds sont représentés un dominicain à genoux en prière devant Saint-Vincent qui n'est pas identifié. Alors, comme il est accompagné de différents blasons, peut-être qu'en faisant des recherches héraldiques, on trouverait qui est ce dominicain ou de quelle famille il est issu. Et de l'autre côté, un soldat en cotte de maille avec son écu, effectivement armorié aussi. Donc ces deux personnages sont en prière au pied de Saint-Vincent, probablement les donateurs ou un donateur et
le prieur de la congrégation,
voilà, à qui a été offert ce retable. Et au-dessus, juste au-dessus de la tête de Saint-Vincent, juste au-dessus de son auréole, est représenté le Christ en croix avec la Vierge Marie et Saint Jean. Donc il y a cette crucifixion tout en haut. Et cette crucifixion est en rappel avec les pointes des deux côtés latéraux également, où sont représentées la scène
des saintes femmes au tombeau.
Des saintes femmes au tombeau, avec femmes que cherchez-vous, les anges qui sont assis sur le tombeau et qui parlent aux trois femmes venues pour porter des parfums et pour finir
pour embaumer le corps de Jésus.
L'embaumement. Et sur l'autre pointe, c'est le Noli Me Tangere, le Christ qui dit à Sainte Marie-Madeleine « Ne me touche pas ». On reconnaît bien Sainte Marie-Madeleine avec ses très longs cheveux, ondulés, roux. Et le Christ, voilà, qui écarte sa main, qui lui fait gentiment signe de ne pas le toucher. Ça évoque, bien entendu, le fait que Saint-Vincent a été admis au paradis et qu'il participera à la résurrection à la fin des temps.
Voilà, après avoir été martyrisé.
Après avoir été martyrisé.
Ce que raconte ce triptyque.
Et pas qu'un peu, parce que vraiment... Alors, Saint-Vincent a une légende assez agrémentée. C'est un saint qui est bien connu. On sait donc la date de sa mort. On sait qu'il a été persécuté sous l'empereur Dioclétien, les persécutions chrétiennes. Et il a été persécuté avec son évêque, Saint-Valère. Donc Saint-Valère est également représenté sur ces petites scènes. Sur les parties latérales donc de ce triptyque, nous avons 6 scènes de chaque côté qui sont représentées. Donc les pointes font partie de la résurrection et le bas du panneau, qui occupe quand même les 2/3, a donc 6 scènes qui sont en carré. Et ces 6 scènes représentent donc tout le martyre de Saint-Vincent avec Saint-Valère. Dans les scènes du haut, c'est plutôt l'instruction de Saint-Vincent. Et puis, on vient les chercher avec Saint-Valère. On les amène devant le juge Dacien. Donc, on les voit tous les deux. Saint-Valère a vraiment les vêtements de l'évêque avec la mitre. Et Saint-Vincent a sa dalmatique, cette fois-ci qui est rouge et or. Et puis, on les amène devant un autre juge qui est l'assistant du juge Dacien, qui s'appelle Eumorphius. Donc vraiment, on connaît bien ce qui s'est passé. Mais c'est après que la légende s'empare un peu de la situation. Si quelques-uns des supplices qu'il a subis sont bien connues, d'autres ont été ajoutées. Et si on met bout à bout tous les supplices qu'on lui attribue, il avait vraiment l'âme chevillée au corps parce qu'il a survécu peut-être à une dizaine de supplices différents où on pourrait mourir à chacun des supplices.
C'est ça. Donc. Alors on connaît cette vie de Saint-Vincent. Grâce à Saint-Augustin en particulier.
Grâce à Saint-Augustin.
Qui est né 50 ans après la mort de Saint-Vincent. Donc c'est vraiment un témoignage très proche.
Tout à fait. Il y a plusieurs sermons de Saint-Augustin qui parlent de Saint-Vincent. Et notamment, il évoque le supplice des ongles de fer, du gril, des tessons. Il a été vraiment... On le voit sur la partie droite, Saint-Valère a eu plus de chance, peut-être parce qu'il était évêque, peut-être parce qu'il connaissait du monde. Il a été seulement exilé. Donc sur la partie droite, on voit la scène où on lui signifie son exil. Il y a encore le juge qui est là, et puis des personnages, des soldats. On le pousse vers la sortie, et la scène d'après, on voit Saint-Valère qui est hors les murs, qui est vraiment exilé en dehors de la cité ou de l'État. Et ensuite, on s'attache davantage au supplice de Saint-Vincent. Il est représenté sur ce qui est appelé aussi un chevalet, c'est-à-dire c'est une croix en bois sur lesquelles on attachait surtout ses jambes. Donc les jambes étaient écartées. Les bras supérieurs de la croix permettaient à Saint-Vincent de se tenir parce qu'on ne l'attachait même pas à ce supplice-là. Il était attaché juste par les jambes. Et les jambes écartées, on le déposait gentiment sur des tessons.
Oui.
Donc voilà.
Oui. Bon.
Donc on voit tous ces gens qui s'acharnent sur ce chevalet, qui prennent du plaisir. Il est dit même que Saint-Vincent plaisantait avec ses geôliers et ses
bourreaux.
Ses bourreaux.
Oui.
La vignette d'à côté montre Saint-Vincent qui est allongé sur un gril. Alors effectivement, c'est pareil, le juge est là, les soldats, on retrouve souvent les quatre mêmes personnages. Et il y a deux personnages à ses pieds qui ont des soufflets et qui attisent le feu pour que ça chauffe encore mieux.
Voilà.
Mais en faisant bien attention, la planche, le grill sur lequel il est installé, si à l'avant on reconnaît les flammes, à l'arrière on voit soit de la fumée, soit quelque chose qui représente de l'eau, des vagues, la mer, parce qu'on dit aussi que Saint-Vincent a été jeté à la mer.
Avec une
meule attachée
au cou.
Des fois, mais qu'il flottait, malgré la meule.
C'est ça.
Saint-Vincent est très souvent représenté avec cette meule autour du cou ou la meule à ses pieds. Mais sur ce triptyque, ce n'est pas explicite. Sur la vignette suivante, on voit Saint-Vincent à qui l'on propose la planche avec des clous, donc les ongles de fer sur laquelle il va être allongé. Et enfin, il est enfermé. Alors, est-ce dans un tombeau ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il a été mis, fixé sur cette planche, attaché sur ses ongles de fer, et ensuite enfermé dans une tour avec la planche, avec les ongles dans le dos ? Je ne sais pas. On retrouve bien, ces deux vignettes sont en lien. Parce qu'on retrouve le même décor, mais je ne saurais vous dire si, effectivement, ça fait partie du supplice. A priori, ça ne représente pas son ensevelissement, ou alors peut-être, mais dans une de ces légendes, on nous dit qu'après avoir flotté sur la mer avec sa meule attachée au cou, il s'est échoué sur un rivage où on l'a récupéré et enseveli à cet endroit-là. Donc, ce retable est vraiment très intéressant parce que c'est comme une bande dessinée, en
Absolument.
Fait. C'est une vie très détaillée de ce saint. Saint-Vincent est le saint patron des vignerons et des vinaigriers. Alors, l'explication, moi, que j'ai trouvée, c'était que en fait, la région où son martyr s'est produit et d'où il était originaire était une région très viticole.
Valence,
voilà.
En Espagne, oui.
Donc, les gens qui ont entendu cette histoire merveilleuse de ce saint se sont emparés de son martyr et en ont fait un saint qui était très important pour eux et qui est très présent et pour lequel une belle fête est organisée, et à Cahors d'autant plus.
Oui.
Une belle fête avec une belle cérémonie à la cathédrale. Et puis, une journée de fête auxquelles les vignerons sont très attachés.
Mais dans toute la France, hein, c'est la tradition des régions viticoles de célébrer Saint-Vincent. Cette année, ça sera c'était le 21 janvier, c'est-à-dire hier. Et on le fête toujours autour du 22 janvier, qui est la fête de Saint-Vincent.
Saint-Vincent peut être aussi, vous pouvez le trouver, représenté avec des corbeaux. Il peut être représenté tenant un petit bateau avec un corbeau à l'avant et un corbeau à l'arrière. Alors pourquoi ces corbeaux ? C'est parce que dans une autre légende, on dit que son corps, après tous ces différents supplices, a aussi été livré aux bêtes sauvages et qu'il a été défendu par deux corbeaux. Donc, les corbeaux lui tiendraient compagnie désormais. Mais vous voyez, il a quand même quantité de supplices à choisir. On peut vraiment lui attribuer quantité de choses pour marquer vraiment son importance. On lui a attribué tellement de choses, c'est que vraiment il était important pour les gens de cette époque-là.
Oui, et puis c'est pour la gloire de Dieu.
Et pour la gloire de Dieu, bien entendu.
Sûr, puisque Dieu envoie des grâces lors de martyrs si importants. Et si douloureux, voilà. Merci Jeanne.
Avec grand plaisir.
Merci Jeanne, c'était un plaisir de vous entendre sur Saint-Vincent. Merci de nous avoir partagé toute votre science sur Saint-Vincent. Je pense que vous avez un membre de votre famille qui s'appelle Vincent.
Oui, mon papa. C'est ça que j'avais choisi cette œuvre. Et ce qu'il y a de très étonnant, c'est que la veille de l'enregistrement, toute la journée, j'ai eu comme des signes, sans arrêt, dans une lecture, je découvre qu'un personnage s'appelle Vincent, on me présente quelqu'un que je ne connaissais pas qui s'appelle Vincent. J'ai eu vraiment trois fois dans la journée Saint-Vincent qui est revenu à moi.
Voilà, c'est un détail, mais qui n'est pas anodin.
Voilà.
Voilà, merci beaucoup Jeanne.
Avec
à une
plaisir.
Prochaine fois, avec grand plaisir.
Oui.
Merci Manol qui tenait les manettes de la technique. Et merci à vous tous, chers auditeurs, que nous savons attentifs à Radio Présence. Au revoir, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Art sacré, Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.